S'il n'y a pas de remarques, on peut passer à la table ronde. Donc la table ronde que nous accueillons maintenant s'intitule « Les projets de lecture auprès des personnes placées sous main de justice, du cadre institutionnel aux réalités territoriales ». Donc les intervenants et intervenantes sont invités à monter sur scène. Et donc cette table ronde est animée par Julien Maréchal, qui est directeur de la Petite Bibliothèque Ronde.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et merci à l'ensemble des organisateurs de cette journée. Tu veux te mettre là ? Non. Bon, journée incroyablement vaste et riche en émotions, en esthétique, en sens et en compétences. Je suis donc Julien Maréchal, le directeur de la Petite Bibliothèque Ronde. C'est une bibliothèque associative spécialisée dans la littérature de jeunesse, ce qui ne nous empêche pas de travailler auprès des personnes sous main de justice à différents titres. Je suis aussi membre de la commission jeunesse de l'ABF. Donc c'est d'autant plus intéressant aussi de voir quels sont les liens entre la littérature jeunesse et la question des publics sous main de justice en l'espèce, mais pas que, avec aussi bien d'autres contextes un peu particuliers comme le monde hospitalier, les personnes en situation de handicap. J'ai la lourde tâche d'animer cette table ronde, très lourde, parce qu'il y a énormément de choses à dire, avec énormément de contextes d'intervention, de personnes mineures, majeures, le milieu ouvert, le milieu fermé. Il y a énormément de notions qui ne sont pas évidentes à aborder quand on n'est pas rompu à l'exercice. J'essaierai d'être aussi clair que possible dans mes questions et dans les relances. Évidemment, il y aura, j'espère en tout cas, un temps consacré aux questions à la fin pour que, si jamais il y avait des zones un petit peu d'ombre, on puisse les dissiper. Pourquoi s'intéresser à la lecture en détention ? On en a déjà quand même pas mal parlé depuis l'ouverture de cette journée. De manière assez basique, je voulais revenir sur 2-3 éléments parce que c'est jamais inintéressant, loin de là. Déjà, il y a différents textes officiels qui disent que la lecture est importante et sinon cruciale dans le quotidien des personnes sous main de justice en particulier. Il y a des textes de loi, la loi pénitentiaire, il y a des codes de procédure pénale qui existent pour baliser énormément de choses liées à la culture et à la lecture en prison, en détention. Et de toute façon, l'accès à la culture des personnes sous main de justice est reconnu comme un droit fondamental dans un certain nombre de ces textes. On peut aussi évoquer le fait que, jusqu'à très récemment, je disais que la bibliothèque ou les bibliothèques pénitentiaires étaient le seul espace culturel permanent des lieux de détention. C'est plus tout à fait vrai, puisqu'il y a eu énormément de travaux qui ont été réalisés, notamment par Valérie Dassonville, qui est metteuse en scène et conseillère artistique au Théâtre Paris-Villette, et Clara Leroux, qui est chercheuse en sociologie, qui ont voulu justement réfléchir à ce concept de lieu permanent de culture en détention, notamment en lien avec le spectacle vivant. N'empêche que pour l'immense majorité des lieux de détention, majeurs, mineurs, la bibliothèque demeure le seul ou l'un des plus incontournables lieux culturels des établissements. En tant que tel, on y trouve bien sûr des livres, mais pas que. Et ce sont aussi des espaces où on a accès à bien d'autres choses, et notamment à des individus, à des gens qui viennent, qui se déplacent et qui viennent partager une expérience collective, alors qui peut être liée à la lecture, mais pas que. Donc c'est aussi intéressant de se poser aussi la question de ce que représentent ces lieux à l'échelle culturelle et humaine dans ces établissements. L'objet de cette table ronde, j'y arrive, c'est de mieux appréhender la place de la lecture en détention en 3 temps. Quels sont les lieux dévolus à la lecture ? Voir un petit peu de quoi on parle. Qui fait vivre la lecture en détention ? Les acteurs internes et les acteurs externes, quels sont les moyens dont ils disposent ou pas ? Parce que, évidemment, rien n'est simple. J'ai la chance d'avoir 5 professionnels ici qui vont pouvoir partager leur regard, leur vécu, leur expérience, leur expertise. Hélène Brochard, directrice de la bibliothèque de Villeneuve-d'Ascq, présidente de l'ABF et responsable de la commission accessibilité de l'ABF. Laurent Brixtel, chargé de mission culture-justice à Normandie Livre et Lecture. Charlotte Gondin, chargée de mission culture-justice à la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle au ministère de la Culture. J'avais fait un copier-coller, je ne voulais pas me tromper. Elfie Hiriart, qui est coordinatrice culturelle du centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis à Villepinte, et Georgine Kissner, référente culturelle interrégionale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, donc l'échelon régional de l'administration pénitentiaire. Quels sont les lieux dévolus à la lecture en détention? L'idée, c'est d'abord de voir ce que disent les textes et ensuite comment ça se traduit dans les faits. Et je vais d'abord donner la parole à Georgine, de ce point de vue-là. Évidemment, je perds mes feuilles, c'est un bazar sans nom, excusez-moi. C'est le côté impro. Donc, que disent les textes? Alors, on pourrait vraiment rentrer énormément dans les détails et à la limite, pourquoi pas si on en a le temps, mais de prime abord, comme ça, qu'est-ce que tu peux nous dire, Georgine, sur tout ça?
Oui, bah alors déjà, tu l'as rappelé, mais je pense que c'est important, en effet, de dire qu'il y a des textes, voilà, et que la question de la culture de la lecture en détention, ça ne sort pas de nulle part. C'est une histoire et c'est des politiques qui sont portées par les ministères de la Justice et de la Culture. Il y a en effet le code pénitentiaire, qui dans une partie régit vraiment la question de l'accès aux activités socio-culturelles de manière large et qui fait un focus aussi sur la question de la médiathèque, de la bibliothèque. Et puis on a les protocoles d'accord culture-justice, voilà, qui démarrent dans les années 80 et comme on l'a déjà dit aussi en introduction, le dernier est très récent puisqu'il date de 2022. Voilà. Et puis au milieu de tout ça, on a aussi des conventions, des circulaires, etc. Mais je ne vais peut-être pas rentrer dans ces détails-là. C'est une littérature qui est dense. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que donc dans le code pénitentiaire, ce qui est vraiment dit, c'est qu'une programmation culturelle la plus large possible et la plus proche de l'offre qu'on peut retrouver à l'extérieur doit être proposée dans chaque établissement pénitentiaire. Et que l'objectif, c'est vraiment de proposer des moyens d'expression, de l'acquisition de connaissances, de compétences aux personnes détenues. Voilà, ça c'est vraiment une des choses peut-être primordiales sur ce que disent ces textes-là. Ça se doit d'être vraiment un outil, au même titre que l'accès au travail, à la formation, à l'éducation. La culture doit être aussi un vrai levier d'inclusion sociale. L'idée, c'est, comme on l'a aussi un peu entendu tout à l'heure, c'est la question d'ouvrir des représentations du monde qu'on n'a pas toujours, voilà, avec la rencontre avec des personnes qui viennent de l'extérieur et qui vont contribuer, voilà, à porter cette ouverture-là. Il faut dire que c'est aussi ouvert à... On essaye d'avoir l'offre la plus large pour qu'elle soit ouverte à l'ensemble de la population pénale. Après, il y a plein de freins et de difficultés, il ne faut pas les cacher, mais en tout cas, c'est l'objectif. Voilà, et donc, comme on est vraiment dans le volet insertion du parcours de la personne placée sous main de justice, ce sont les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, qui portent, en fait, qui définissent ces programmations culturelles avec des personnels dédiés ou des partenaires dédiés sur ces matières-là, évidemment en lien avec l'établissement et donc ses opérateurs extérieurs.
Tu fais bien effectivement de mettre en avant toute la part importante qu'a prise la culture dans la prise en charge des personnes détenues, au même titre que d'autres aspects. Hein. Je veux dire, ce n'est pas la culture par rapport à d'autres domaines, bien sûr. Mais où est-ce qu'on trouve des livres en détention? Quels sont les lieux, quels sont les volumes, les espaces, etc.
Donc on a en effet, chaque établissement doit être doté d'une bibliothèque. Et d'ailleurs, quand on dit une bibliothèque, en fait, selon la taille de l'établissement, on peut avoir une bibliothèque centrale et puis des bibliothèques par quartier. On a aussi des points de lecture qui, eux, vont être réservés à des espaces, des quartiers un peu spécifiques qui hébergent des personnes détenues qui ne peuvent pas forcément se rendre pour des raisons très différentes, mais qui ne peuvent pas se rendre justement dans ces bibliothèques-là. On peut aussi en avoir dans les accueils familles, donc qui sont les espaces où les familles qui viennent voir les personnes détenues au parloir patientes, notamment quand c'est des enfants. Je pense que c'est important aussi que cet outil de la lecture y soit présent. Et puis, on en trouve aussi en cellule, puisque qui dit qu'il y a des bibliothèques, dit qu'on peut emprunter, et donc les personnes détenues peuvent lire, évidemment, en cellule.
Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler des livres ? Qu'est-ce qu'on trouve comme livres ?
Alors, on trouve beaucoup de livres très différents. L'idée, c'est, encore une fois, comme cette question de l'accès à la culture avec tous les champs culturels représentés, l'idée, c'est aussi que les bibliothèques, elles soient voilà, les plus fournies possibles et qu'elles voilà, montrent des champs aussi de connaissances, de savoirs très, très variés. Là-dessus, on a donc des professionnels qui œuvrent là-dessus pour avoir des fonds, en effet, qui sont représentatifs, pour les actualiser aussi, les renouveler, puisque une bibliothèque qui ne se réactualise pas, c'est une bibliothèque qui finit par être un peu moins vivante. Voilà, on peut autant trouver de la fiction, de la bande dessinée, on peut aller sur les champs politiques, scientifiques, voilà, enfin un panel très large. Et on ne trouve pas d'ailleurs que des livres, comme tu l'as dit aussi dans les bibliothèques, on peut trouver des CD, des jeux, etc. Donc il faut aussi dire que les bibliothèques en détention, c'est aussi des espaces d'accès à une offre au-delà de la lecture, mais une offre culturelle au sens un peu plus large.
Merci beaucoup. Tu parlais, Georgine, des textes et des politiques interministérielles. Je vais passer la parole à Charlotte pour justement aller sur ce terrain-là et compléter un petit peu toute cette première série d'informations. Évidemment que le ministère de la Culture est partie prenante de toute cette politique depuis pas mal de temps et depuis 1986, lors de la signature du premier protocole interministériel. Dans quelle mesure ces protocoles ont aidé vraiment à affiner le regard sur la place du livre en détention ?
Le lien entre le ministère de la Culture et le ministère de la Justice, effectivement, il s'est formalisé en 1986. Mais on n'a pas une année zéro en 1986 où on imagine qu'avant il ne se passait rien. En fait, tout ça, ça a mis du temps à se construire. Il y a une étude très intéressante d'ailleurs que je vous invite à lire si ça vous intéresse, qui a été menée par Flora Delalande, qui en fait fait l'historique justement de l'évolution des bibliothèques de 1945 jusqu'aux années 80 et l'arrivée et la formalisation du protocole d'accord culture-justice. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait énormément de choses qui se passaient en détention. Notamment, c'est un peu justement le début des bibliothèques. Alors à l'époque, c'était uniquement géré par l'administration pénitentiaire, mais c'est ce qui a aussi permis petit à petit de faire rentrer des professionnels du livre et de la lecture. Et finalement, ce que le protocole de 86 est venu étayer, c'est justement la prise en compte des politiques du livre par des professionnels de la culture, des bibliothèques. À ce moment-là, on a aussi vu l'entrée de professionnels de l'extérieur, éducation nationale, de la santé. Donc c'est vraiment dans les années 80 que l'administration pénitentiaire, on va dire, s'est vraiment ouverte à l'extérieur. Et donc, du coup, premier protocole de 86, on a effectivement l'idée que ce sont des professionnels qui doivent intervenir pour proposer une offre de qualité qui soit pluridisciplinaire. Donc on a tous les champs pluridisciplinaires qui sont mentionnés. Et le livre et la lecture tient une place très, 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 très importante. Et ensuite, ça s'est enchaîné. On a eu, ensuite, je crois que ça a été 90, 2009. Et le dernier protocole, qui date de 2022, en fait, est venu réaffirmer tous ces principes-là, avec des petites nouveautés à chaque fois, puisqu'on s'adapte aussi à l'évolution des pratiques.
Mais de ce point de vue-là, on sent bien que la bibliothèque et le livre jouent un rôle très particulier dans ces textes officiels et accompagnent vraiment, enfin, je ne dirais pas que c'est le pilier de l'action culturelle, mais on n'en est quand même pas très loin.
Je pense que c'est un peu ce que raconte aussi cette fameuse étude, c'est que finalement, la culture est aussi arrivée via les bibliothèques, parce que la bibliothèque, effectivement, pendant longtemps, c'était considéré un peu comme le seul lieu culturel au sein d'un établissement pénitentiaire. C'est le seul lieu, quelque part, qui n'a pas une fonction double, comme parfois ça peut être le cas des salles d'activité qui vont servir de salles d'art plastique, de salles de musique, de salles de cours. La bibliothèque, elle n'a pas d'autre fonction que d'être une bibliothèque. Après, une bibliothèque, on sait que c'est plein d'autres choses. C'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu où on passe le temps, c'est un lieu de formation. Mais, on s'est clairement identifié au sein d'un établissement pénitentiaire, c'est la bibliothèque. Donc oui, les actions, enfin, nous, dans le cadre des appels à projets culture justice qui sont menés tous les ans, en fait, on dénombre à peu près 600 actions culturelles. Je dirais pas qu'il y a une majorité d'actions livres et lectures, mais effectivement, c'est une grosse partie. Mais on a aussi beaucoup d'autres actions autour des arts visuels, autour du spectacle vivant, autour de la musique, autour de l'audiovisuel. Donc, c'était sans doute le cas au début. Après, ça s'est vraiment étoffé au fil des années.
Et dans quelle mesure les protocoles ont vraiment aidé à rapprocher finalement l'existant en milieu pénitentiaire, c'est-à-dire les bibliothèques pénitentiaires, des bibliothèques territoriales aussi. On voit bien qu'il y a eu une démarche particulière du ministère de la Culture pour que, quitte à avoir des points de repère en détention sur ce qu'est une bibliothèque, autant faire en sorte que les collections qu'on y trouve ou ce que ça représente soient très proches de ce qu'on peut trouver dans l'espace commun.
Effectivement, comme le disait Georgine, l'objectif du protocole, c'était qu'on puisse trouver à l'intérieur, finalement, bon, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, mais une offre qui soit égale en qualité à ce qu'on peut trouver à l'extérieur. Donc pour les bibliothèques, c'est la même chose. Et en fait, en même temps que le protocole de 86 a été signé, il y a eu un rapprochement aussi entre l'administration pénitentiaire et à l'époque, c'était la direction du livre et de la lecture, donc qui n'existe plus ou qui a changé de nom, justement dans l'idée d'encourager en fait des partenariats entre les établissements pénitentiaires, les SPIP, et les bibliothèques locales, en fait, les structures de lecture publique, les bibliothèques départementales. Pour que puisse être vraiment pris en charge tout ce qui est la constitution du fonds, la formation des auxiliaires de bibliothèque aussi, et plus globalement la programmation en fait culturelle au sein de la bibliothèque. Dans le code pénitentiaire, le dernier en date, qui est celui du 1er mai 2022, il est vraiment précisé que ce soit l'approvisionnement en livres, la formation, l'encadrement des auxi, doit être assuré par un bibliothécaire ou à défaut par le SPIP, mais toujours en lien avec une bibliothèque. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher les compétences là où elles sont, puisque dans les métiers de l'administration pénitentiaire, il n'y a pas encore bibliothécaire.
Oui, et d'ailleurs, pour ceux que ça peut intéresser, on voit aussi l'évolution d'un protocole interministériel à l'autre. On voit aussi comment se construit finalement l'identité culturelle de l'administration pénitentiaire avec le concours du ministère de la Culture. Mais il y a cette fameuse circulaire du 3 mai 2012 avec un certain nombre d'annexes, et une annexe est clairement consacrée aux bibliothèques, avec un code de bonne pratique qui est assez clair et qui donne aussi des outils de compréhension d'un certain nombre de choses.
C'est ça. Elle a pas... Alors, 2012, elle commence un peu à dater. Après, je l'ai relu hier. Il y a encore des choses qui sont tout à fait d'actualité, donc on peut s'y référer. Et effectivement, c'est une fiche technique vraiment à destination à la fois des bibliothèques publiques et des SPIP sur comment, en fait, est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on entretient une bibliothèque carcérale. Donc, ça va de comment constituer le fonds, combien d'ouvrages par personne détenue, qu'est-ce qui doit intégrer ce fonds, les rayonnages, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre tout ça en place. Il y a la démarche facile à lire aussi qui peut se développer dans les bibliothèques carcérales. Et d'ailleurs, on parlait de la constitution des fonds, qu'est-ce qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut ne pas avoir. Ça aussi, on voit l'évolution au fil du temps, puisque là, aujourd'hui, finalement, on trouve de tout, quasiment. Et si on se réfère aux règles, on va dire, qui étaient établies au moment où les bibliothèques ont commencé un peu à se formaliser, il y avait cette règle un peu tacite qui était d'éviter les 3 P. Donc c'était les ouvrages politiques, policiers et polissons. Mais aujourd'hui, on trouve tout ça dans les bibliothèques carcérales.
Les 3 P, je la connaissais pas, pardon. Mais du coup, parce que ce qui est intéressant aussi dans l'enchaînement des protocoles, c'est que tout d'un coup, on inclut les mineurs dans la politique interministérielle. Et là, je vais me tourner vers Laurent, parce que dans le sens où là, on a parlé essentiellement des publics majeurs, sauf qu'évidemment, il y a des mineurs aussi sous main de justice. Et de ce côté-là, Normandie Livre et Lecture travaille aussi auprès des publics majeurs, mais a une fonction essentielle aussi auprès des services de la protection judiciaire de la jeunesse. Et de ce point de vue, est-ce que tu peux nous parler justement aussi de la place qu'occupe le livre et la lecture dans le quotidien de ces mineurs, peut-être avec différents cas de figure selon les établissements ?
Bonjour. Je vais commencer par dire que normalement, ce n'était pas moi qui devais être là aujourd'hui. C'était Emmanuel Giraud, qui est ma collègue en charge de la lecture. Normandie Livre Lecture, qui n'a malheureusement pas pu venir. Donc, du coup, je la salue au passage. Alors oui, effectivement, donc, nous, à Normandie Livre Lecture, on a une mission régionale culture-justice qui nous a été confiée par le ministère de la Justice et le ministère de la Culture depuis 2015. Et depuis 2015, on a également la mission d'accompagner les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le développement de l'accès à la culture sur la région Normandie. La protection judiciaire de la jeunesse, donc après j'en suis pas un spécialiste, je vais vous dire ce que j'en sais. Après, comme on l'a vu sur le site Lecture Justice, vous avez un glossaire qui a l'air très bien fait, parce que il y a beaucoup de noms d'établissements, de types d'établissements différents dont on va pouvoir parler, mais vous pourrez retrouver sur le site. Les services de la protection judiciaire de la jeunesse de Normandie accompagnent chaque année 1500 jeunes en file active, des jeunes qui sont suivis pour une mesure judiciaire ou pour diverses raisons par la protection judiciaire de la jeunesse. Ces jeunes, ils sont accueillis sous des formes variables. Ils peuvent être, pour un très petit nombre, accueillis dans des quartiers mineurs. Il y a 3 quartiers mineurs en Normandie, dans 3 maisons d'arrêt. Il n'y a pas d'établissement pour mineurs, donc il n'y a pas de mineurs qui purgent une peine longue en Normandie. Il y a des mineurs qui sont en maison d'arrêt, donc soit sur des peines courtes, soit sur une attente de jugement. Il y a peu de mineurs incarcérés, heureusement, et c'est bien que ça continue. Après, au-delà des établissements pénitentiaires, on a des mineurs qui sont accueillis dans des établissements d'hébergement. On entend souvent parler de CEF, CER, CEF, Centre éducatif renforcé, CER. On a également des unités qui sont des foyers. En Normandie, il y a à peu près 10 établissements de ce type-là qui réunissent 150 jeunes, peut-être. Donc voilà, on se recule un peu. On arrive un milieu qu'on pourrait dire milieu ouvert, qui regroupe la majorité des jeunes qui sont suivis par la protection judiciaire de la jeunesse. Ce milieu ouvert, ce sont des éducateurs et éducatrices qui vont aller à la rencontre des jeunes dans le cadre de leur suivi éducatif régulièrement pour avoir des entretiens avec eux, pour faire un suivi aussi de leur insertion et du respect de leur suivi judiciaire. Dans ce milieu ouvert, donc on a des jeunes qui sont dans leur foyer, dans leur quartier, et on a aussi des établissements qui les accueillent la journée pour un travail soit de formation, soit de préparation à l'insertion. Donc ces établissements sont plutôt liés à l'insertion. Et ce sont des établissements qui sont en développement actuellement au niveau de la PJJ, établissements liés à l'insertion. Donc nous, à Normandie Livre et Lecture, qu'est-ce qu'on a fait avec la PJJ ? On a essayé de créer des espaces dédiés aux livres et à la lecture dans plutôt les établissements dont j'ai parlé au début, donc les quartiers mineurs et les unités d'hébergement, CEF, CER, dans le cadre de projets régionaux, pour essayer de faire, de développer des espaces dédiés à la lecture, en passant par l'idée de la lecture plaisir. Voilà, donc de dépasser les a priori que ces jeunes pouvaient avoir par rapport à la lecture, parce que ces jeunes sont des enfants, des adolescents, qui ont un rapport au livre qui est égal à celui que les adolescents peuvent avoir, donc qui est un peu détendu à certains moments de leur vie, qui peut être aussi relié à un passé scolaire, voilà, le livre contrainte. Donc nous, on a essayé de travailler sur la lecture plaisir auprès de la PJJ, donc auprès de ces quartiers mineurs, de ces unités d'hébergement, mais aussi auprès du milieu ouvert. Sachant que le milieu ouvert, c'est plus compliqué de travailler avec un groupe de jeunes, puisqu'ils sont suivis plutôt de manière individuelle. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, rapport aux quartiers mineurs, pour finir, les quartiers mineurs disposent de bibliothèques. Voilà, petites bibliothèques qui sont également fournies de livres divers et variés. Voilà.
Est-ce que tu verrais des différences dans la manière de concevoir des projets de développement de la lecture entre les établissements pour mineurs et les établissements pour majeurs ? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui se distingue
Je dirais que un des éléments qui est important, et là je parlerai de la région dans laquelle je suis, la Normandie, mais il y a aussi des personnes qui occupent le poste de coordinateur, coordinatrice de l'action culturelle en milieu pénitentiaire ailleurs en France. Donc ce poste-là de coordinateur, c'est un poste qui est essentiel pour les majeurs, parce que ce sont des personnes qui sont en fixe dans les établissements pénitentiaires pour concevoir et mettre en œuvre une action culturelle, accompagner le développement des bibliothèques, être le référent ou la référente permanente du partenaire extérieur, du bibliothécaire, pour accéder à la bibliothèque, pour faire rentrer les livres, etc. Côté PJJ, ces postes-là n'existent pas réellement, même pas du tout, ce qui fait qu'on n'a pas ce poste fixe, ce référent permanent. Donc ça veut dire que le bibliothécaire, le libraire, l'auteur va devoir apprendre à connaître les éducateurs et les éducatrices, aussi à découvrir leur métier et à vraiment rentrer dans le cœur du travail éducatif. Donc ce changement-là, c'est le fait qu'il n'y ait pas un permanent dédié à la culture auprès de la PJJ. Ça, c'est une grosse différence, je trouve, qui est pas mal d'établissements qui ne sont pas des quartiers mineurs, donc qui n'ont pas un espace dédié à la lecture aussi. C'est une grosse différence. C'est quelque chose des choses qui sont à créer. Je sais que PACA a créé des espaces lecture. On a essayé de le faire aussi dans des espaces d'hébergement où il n'y en avait pas encore. Donc on part d'un peu plus loin parfois dans ces lieux-là.
On a eu l'occasion de commencer à travailler auprès de la PJJ, et ce qui nous a frappé déjà, je ne sais pas ce qu'il en est aussi de ton point de vue ou même du vôtre, c'est qu'il y a une donnée importante dans l'envie de participer aux activités ou pas. Dans le sens où les personnes détenues sont volontaires, alors que les jeunes, ça fait partie d'une obligation. C'est-à-dire que c'est dans leur planning d'activité hebdomadaire. Donc le rapport déjà à la proposition n'est pas le même. Et ça peut parfois générer quelques refus, simplement, ou un comportement qui peut être... Enfin, ils peuvent avoir le sentiment de se voir imposer finalement une participation en bibliothèque ou d'une activité culturelle. Donc ça, c'était une découverte pour nous, parce qu'on n'avait pas, éventuellement identifié ça. Et puis, la deuxième chose, c'est que, en termes de collection, forcément que la bibliothèque, comment on la construit, en fait, comment on compose les collections et les fonds de la bibliothèque pour les jeunes. A priori, il faut faire des choix encore peut-être plus drastiques, d'une certaine manière. Je ne sais pas dans quelle mesure ça peut... vous avez pu voir cet aspect-là de la question ou pas en Normandie.
Alors déjà, par rapport à l'obligation de participer à une activité culturelle ou d'aller en bibliothèque, moi, je n'en ai pas connaissance forcément. Voilà. Ils sont encore aussi libres de faire le choix de suivre une activité culturelle ou d'aller en bibliothèque. Et par rapport au choix des collections, forcément, les moyens disponibles sont moins importants que dans les établissements pénitentiaires. Les moyens de mettre en œuvre également, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de coordinateur au sein de la PJJ, donc c'est les éducateurs qui portent le projet livre et lecture en plus de tout ce qu'ils ont déjà à faire, et c'est déjà beaucoup ce qu'ils ont à faire, de mesures judiciaires à mettre en place, de suivi des jeunes. On a entendu récemment qu'il y avait eu quelques soucis de recrutement et de ressources humaines au sein de la PJJ. Et sur le choix des collections, on fait appel, peut-être que je rentre trop dans le détail. Appel aux bibliothèques publiques qui nous aident, qui nous conseillent, forcément, sur quel type de livre acheter, parce que c'est des jeunes et des enfants, donc voilà, c'est des publics que les bibliothèques publiques connaissent déjà. Et puis, on essaye de faire appel aussi aux éducateurs pour co-construire des listes d'acquisition, et on essaye de faire appel aux jeunes sur une partie des acquisitions pour faire le choix aussi, pour finalement démontrer, contrairement à ce qu'on peut croire, qu'ils lisent, même si eux-mêmes n'y croient pas. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, tiens, je connais One Piece, mais c'est pas un livre, du coup, parce que moi, j'ai jamais reconnu le fait que One Piece ou un autre manga soit un livre. Donc voilà, le fait qu'on leur propose aussi de choisir dans une liste d'acquisition des livres, donc des listes composites avec moins de moyens et pas forcément lieu dédié.
Alors avant de passer à la deuxième partie, qui est donc plus sur qui pour faire vivre le livre et la lecture, Hélène, est-ce que tu avais toi des commentaires aussi à apporter sur ces premiers éléments et ce contexte global et la question des espaces de lecture dans les établissements ?
Alors, on voit à plusieurs reprises que la collaboration avec les professionnels et les bibliothèques publiques a été évoquée. Et c'est effectivement ce à quoi on a travaillé au niveau de la commission ABF et ce qu'on essaye de faire à titre professionnel dans nos structures avec les collègues. Vraiment d'intégrer l'établissement pénitentiaire au même titre que les autres partenaires. Avec la difficulté, on a une difficulté très concrète hein, sur les établissements pénitentiaires, notamment les établissements pénitentiaires récents. C'est que là où on avait des vieilles prisons au cœur des villes et où le partenariat allait un peu de soi avec la bibliothèque locale, alors pour les Hauts-de-France, on pense à Douai, Valenciennes, voilà, où en Bretagne, on pense à Rennes, les prisons, elles étaient dans les villes. Donc, longtemps, si on faisait un partenariat avec la prison, la bibliothèque municipale portait le partenariat et c'était assez évident. Maintenant, ce qui est difficile, c'est que les nouvelles constructions se sont excentrées, loin en périphérie. Et souvent, ça correspond au territoire géographique d'une toute petite commune ou d'une petite commune ou moyenne. En tout cas, avec une bibliothèque municipale et une équipe qui n'a pas forcément les moyens humains et le temps pour intervenir et associer l'établissement. Et c'est pour ça que, en tout cas, par exemple, nous, sur la métropole lilloise, avec deux gros établissements, c'est une affaire de coopération à l'échelle de la métropole entre plusieurs bibliothèques municipales et où on travaille entre collègues à se compléter le mieux possible selon les moyens des uns et des autres. Cette question géographique, elle n'est pas neutre parce que ça veut dire aussi qu'il faut, auprès des tutelles, défendre pourquoi une bibliothèque municipale d'une ville qui n'a pas de prison va intervenir beaucoup plus loin dans un village qui a une prison. Et en ça, les textes réglementaires et notamment aussi la récente loi Robert qui le stipule très clairement dans son article, ça nous aide aussi à défendre auprès des tutelles. Après, bon, il y a la question des moyens, mais on y reviendra après, oui. Je pense.
Merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie. Donc, qui pour faire vivre le livre et la lecture ? La transition est tout trouvée, en fait, parce que je vais passer la parole à Elfie, qui a commencé en tant que coordinatrice culturelle à Melun, en plein cœur de la ville, sur l'île de Melun, où là, on ne peut pas dire que le centre de détention ne soit pas totalement intégré à la ville. Et maintenant, tu es désormais à Villepinte, dans un espace totalement hors de la ville, pas loin de l'autoroute. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du métier de coordinatrice culturelle, justement ?
Oui, alors en fait déjà pour contextualiser un peu la présence de ces postes, on a en fait la fédération Léo Lagrange qui gère depuis 2012 la mise en œuvre des coordinateurs culturels à destination donc des personnes placées sous main de justice. Donc sur le réseau Île-de-France. Donc en collaboration en fait avec les services pénitentiaires d'insertion et de probation, le poste de coordinateur culturel en fait c'est travailler avec un socle de partenaires le plus large possible et qui a en fait pour mission de construire une programmation culturelle pour l'ensemble de la population carcérale. Et par le biais en fait de la mise en place d'actions qui participent activement en fait à la réinsertion et à recréer vraiment un lien avec l'extérieur.
Et de ce point de vue-là, je me pose des questions un peu bêtes, mais tu as quelle formation ? Comment en es-tu arrivé à travailler dans ce contexte pénitentiaire ?
Alors moi personnellement, je vais parler aussi pour mes collègues, mais on a tous plus ou moins des parcours un peu différents, mais on vient plus ou moins tous aussi de, on va dire, d'études culturelles. Moi pour ma part, j'ai fait une licence et un master 1 en médiation culturelle et un master 2 en développement culturel territorial.
Et donc tu as évidemment postulé à ce poste, mais tout d'un coup, donc toi tu es coordinatrice culturelle au sein d'un établissement et tu es chargée aussi de la bibliothèque, ou en tout cas des lieux dévolus à la lecture dans l'établissement. Comment tu arrives à jongler avec ces deux aspects finalement de ton action ?
Alors en fait, bon, faut savoir qu'on n'a pas... nous, de formations qui sont spécifiques, en fait, justement sur la thématique du livre et des bibliothèques. Et on réalise vraiment, en fait, l'importance de la présence, en fait, de médiathèques, d'associations, voilà, de personnes qui font vraiment vivre les lieux bibliothèques et les actions autour du livre, tous les partenaires extérieurs. Nous, en fait, sur, et tu l'as dit tout à l'heure, Georgine, mais en fait, sur l'établissement et les établissements, en fait, pénitentiaires, on a la présence de bibliothèques et de points lecture, où on propose, en fait, des actions qui vont graviter autour du livre, comme par exemple des ateliers d'écriture ou de lecture, des ateliers théâtre, ou encore, et j'en parlerai cet après-midi, des ateliers livres audio, en fait, autour de la parentalité.
Mais du coup... Donc là, ce sont des actions dans le cadre d'une programmation. Mais est-ce que tu peux nous parler aussi du rapport à cet espace ou à la lecture des personnes détenues que tu côtoies sur une base quotidienne ?
Oui, alors le rapport à la lecture, il est assez large. On va avoir... Donc une bibliothèque centrale sur l'établissement qui va réunir différents bâtiments en fait de l'établissement et 4 points de lecture en fait sur des quartiers spécifiques comme le module de respect, le quartier mineur, mais moi pour le coup j'y travaille pas personnellement, ou le quartier arrivant. Et en fait dans l'ensemble, je trouve que la lecture, en fait, elle reflète différents profils et besoins, puisque, en fait, pour certains, ça va constituer vraiment une continuité, en fait, dans le, d'avant leur incarcération, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir, en fait, des habitudes de lecture, et d'autres personnes, en fait, qui n'auront pas forcément ouvert avant de livres et qui vont, en fait, se prêter au jeu. Et via, justement, ces actions, on va essayer de les amener le plus possible, de les pousser vers ces points lecture et ces bibliothèques pour développer un peu une appétence pour la lecture.
Et de ce point de vue-là, la question a été posée à l'instant, tout à l'heure par Alain Kerlan. Il y a cette idée d'avoir recours très régulièrement en bibliothèque à la poésie, à la philosophie. Est-ce que toi, tu peux nous parler justement des livres qui sont consultés, qui sont empruntés ? Qu'est-ce qui ressort aussi des pratiques de lecture ?
Alors en fait, on va avoir beaucoup en fait de lecteurs de mangas. Ça c'est des ouvrages qui marchent très bien. On va avoir beaucoup de romans aussi qui vont être consultés. Nous l'espace bibliothèque en fait va être beaucoup utilisé par les personnes détenues, mais plus comme un espace en fait de convivialité. On va autant trouver des livres du coup que des jeux de société, et ça va aussi être un moyen pour eux de sociabiliser en fait, de discuter avec les autres. L'espace lecture en tant que tel, c'est pas, de prime abord, c'est pas la première chose vers laquelle ils vont. C'est-à-dire qu'ils vont venir en fait emprunter des livres et les ramener en fait en cellule, mais ça va être vraiment un espace de convivialité pour eux.
Oui, parce qu'il faut rappeler que le centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, c'est principalement une maison d'arrêt, et que la maison d'arrêt a ceci de particulier que la mobilité des personnes détenues est très réglementée.
Oui.
On ne peut pas spontanément sortir de sa cellule pour se rendre dans n'importe quel espace, évidemment.
Non, c'est ça. En fait, la maison d'arrêt, c'est donc des personnes, sur le principe, qui sont enfermées 22 heures sur 24, qui vont avoir, pour sortir des promenades, des parloirs, le travail, les formations, le scolaire, qui est d'ailleurs, je fais un point là-dessus, mais l'éducation nationale, c'est vraiment hyper important pour eux, et même pour faire en fait ce lien avec justement le livre et aussi la bibliothèque, comme on va avoir en fait par exemple à une classe qui s'est créée autour de la lecture après la mise en place du concours des détenus en 2023, ou des classes d'alphabétisation. Donc voilà, c'est un partenaire, si on peut dire ça comme ça, interne en fait à la maison d'arrêt, qui est hyper important, et sur d'autres prisons également.
Après,
C'est aussi le simple fait. Tu parlais d'un espace de sociabilité, c'est parce oui. que bon bah c'est l'un des rares moments aussi où on peut sortir de sa cellule pour mm-hmm. voir d'autres personnes. Enfin, c'est ça aussi par rapport oui. à des établissements pour peine, type centre de détention ou la maison centrale, où là le degré de liberté, on va dire, est plus large puisqu'il y a des plages horaires où finalement les personnes détenues peuvent aller et venir un peu plus. Dans certains espaces prédélimités de l'établissement. Donc, il y a le fait de sortir de sa cellule pour voir d'autres personnes, ne serait-ce que ça, en fait, c'est éminemment important. Mais du coup, tu parlais des rapports aussi avec les bibliothèques territoriales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que la vie n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment s'établissent ou pas les relations partenariales ?
Alors moi en fait à mon arrivée ça faisait déjà quelques années qu'on avait un partenariat avec la médiathèque de Villepinte. Donc c'était en fait vraiment ce qui nous permettait déjà de renouveler les fonds, de former les Oxy bibliothèques qui font en fait aussi vivre le lieu. Ils ont un poste qui est vraiment très important et... En janvier 2023, ce partenariat s'est arrêté suite en fait à des défaillances de fonctionnement. Il se trouve qu'on a beaucoup de mal en fait à retrouver un partenaire pour la maison d'arrêt pour faire vivre justement ce lieu. J'essaye de renouveler tant bien que mal en fait le fond de cette bibliothèque et d'accompagner les Oxy bibliothèques par le biais d'associations, de dons. Qui sont vraiment précieux, mais c'est là que, comme je le disais tout à l'heure, l'importance qu'on voit en fait de ces partenaires sur place et qui font vivre ces lieux, parce que encore une fois, nous on n'a pas de spécialisation sur les bibliothèques, donc on essaye de faire un petit peu avec des bouts de ficelle comme on peut, de tricoter tout ça pour accompagner cet espace pour le faire vivre. Et de trouver en fait un maximum de partenaires en fait autour du livre ou pas, mais qui vont faire vivre justement ce lieu aussi.
C'est vrai qu'en plus en Seine-Saint-Denis, il n'y a pas de bibliothèque départementale. Donc il y a un contexte aussi qui peut être parfois très disparate, en tout cas de région en région. Pareil, Alain Carlan parlait tout à l'heure des passeurs. Oui, il faut des passeurs pour aller vers le livre, et particulièrement les coordinateurs et coordinatrices culturelles. Georgine, est-ce que tu peux nous parler des autres aussi il y a évidemment les bibliothèques territoriales, on y reviendra tout à l'heure, mais au sein de la détention, est-ce que tu peux nous donner des clés de compréhension de qui est un levier vers l'accès aussi au livre ?
Alors déjà, il faut dire que les bibliothèques, c'est quand même un espace... partagé aussi en termes de compétences et de budget, même si ça on y reviendra peut-être après. Mais c'est vrai que le SPIP est quand même le service porteur donc, de cette politique culturelle au sens large et donc du livre, avec des coordinateurs culturels dédiés. On a évidemment les enseignants aussi. L'éducation nationale, tu parlais de partenaires interne, ça peut paraître un peu opposé, mais en fait, ils sont là au quotidien. Donc, en effet, on les intègre presque dans cette administration. Pour l'établissement, a aussi un rôle qu'il ne faut pas négliger en termes budgétaires. Mais c'est aussi, par exemple, Elfie parlait des auxiliaires de bibliothèque qui sont les personnes détenues qui travaillent à la gestion, au fonctionnement de la bibliothèque, qui sont recrutées et qui sont rémunérées par l'établissement.
Comment sont-ils choisis ? Parce que ce n'est pas évident non plus de devenir auxi-bibliothèque.
Oui. Il y a différents critères, disons. Il faut pouvoir, en fonction de sa situation, pouvoir du coup occuper ce poste déjà. Donc il y a un peu premier filtre, disons, à cet endroit-là. Et ensuite, c'est souvent sous la forme d'un entretien. Si on peut être classé au travail, qui va souvent associer. Alors après, il y a des fonctionnements différents, même s'il y a un modèle. Après, on sait que selon les établissements, il y a des fonctionnements très différents. Donc je ne serai pas forcément exhaustive, mais en général. L'idée, c'est d'associer l'établissement, le SPIP, via souvent le coordinateur culturel, mais ça peut être aussi, s'il y a un partenaire assurant la gestion des bibliothèques, évidemment, c'est important qu'il soit là. Et ça va être dans ce cadre-là voilà, qu'on va s'assurer que les missions peuvent être remplies, qu'il y a une appétence. Il y a éventuellement des compétences préalables, mais c'est pas forcément extrêmement poussé. On peut aussi donner sa chance à des personnes qui ont cette envie et qui n'étaient pas forcément...
Et les accompagner, parce que finalement, parler du livre en détention, c'est pas évident. Je sais pas, Hélène, est-ce que tu as pu voir aussi, toi, dans quelle mesure on pouvait... Il y avait comme ça, éventuellement, des collaborations entre bibliothèques territoriales et certains établissements pour aussi contextualiser les choses auprès des oxybibliothèques.
Contextualiser.
C'est-à-dire ce que veut dire d'être oxybibliothèque.
Ah oui, oui. Alors, ça, souvent, la première rencontre, alors, on n'ose pas trop aborder les obstacles en disant qu'on va y revenir, on va aborder un obstacle. C'est-à-dire que même quand il y a une relation très construite avec une convention, et que c'est vrai que pour le partenaire, ce serait l'idéal d'être associé au recrutement. En fait, là, on va pouvoir peut-être toucher aux premières limites et de nos possibilités et de celles de l'établissement, notamment dans les maisons d'arrêt, où des fois, c'est très rapide. Et un oxy peut être libéré, transféré ou jugé très rapidement. Et pour qu'il n'y ait pas de creux, l'établissement va tout de suite recruter un nouvel oxy. Et le temps du jury n'est pas forcément notre temps à nous et notre possibilité à nous de nous dégager pour assister. Donc on le fait si c'est possible, mais c'est vrai que c'est clairement une des limites. Et après, alors, pour la plupart des bibliothèques qui travaillent depuis longtemps en collaboration avec des centres, il y a des formes de petits documents maison, de guides de l'oxybibliothécaire, où c'est une sorte de métier du bibliothécaire. Synthétisé en une dizaine de pages, mais où on essaye d'expliquer à l'oxy si on n'est pas là, parce qu'on peut être du coup intervenir que quelques semaines après sa nomination. Donc il y a un temps où il doit prendre en main tout seul avec l'aide des coordos. Mais qu'est-ce que c'est gérer une bibliothèque maintenant que vous êtes oxy-bibliothécaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, pour aller dans des exemples très concrets, nous, dans ce petit guide, par exemple, on a expliqué comment on lisait l'ordre des livres sur une étagère, de gauche à droite, sur une étagère et pas sur un mur. C'est des choses bêtes, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Donc voilà, c'est une espèce de... Alors ça, moi, je sais, on a eu plusieurs exemples à l'époque où on recensait les outils pour mettre sur le blog et pour mettre à dispo des collègues de guides, on va dire guides de l'oxybibliothécaire. Et puis, on a travaillé alors à la fois localement et puis à un échelon plus large avec les collègues du ministère à des rédactions de fiches de poste type. Ou qu'est-ce que c'est l'indispensable quand même pour un oxy? Le minimum, alors, c'est pas du tout, ni pour me moquer, ni péjoratif, mais c'est un obstacle et c'est une difficulté. C'est qu'il faut quand même qu'on ait des gens qui sachent lire et qui sachent lire au sens pas seulement connaître leurs lettres, etc. Alors, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est parce que c'est une réalité aussi en prison, et c'est le taux d'illettrisme en prison, il est plus fort qu'à l'extérieur. Donc c'est des éléments de ce type-là.
Merci. Et d'ailleurs, ça fait penser aussi à ce que disait Alain Carland tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en tant que passeur, il y a évidemment différentes figures au sein d'un établissement, il y a différentes compétences requises, il y a différentes légitimités incarnées aux yeux des personnes auxquelles on s'adresse, et il y a effectivement les figures des personnels pénitentiaires, sans lesquelles on ne peut pas avoir accès tout simplement à la bibliothèque. On a besoin des surveillants de prison pour aller de la cellule à la bibliothèque. Et de ce point de vue-là, Georgine, est-ce que c'est aussi l'un des aspects peut-être sur lesquels l'administration travaille, sur la sensibilisation même des personnels à l'accès aux activités en général, mais à la bibliothèque en particulier?
C'est là qu'on va, on peut mettre les pieds dans le plat, peut-être. c'est sûr que... Donc là, il faut distinguer en effet la question des établissements type maison d'arrêt où vraiment le surveillant permet... Et d'ailleurs, ce n'est pas un surveillant, mais en fait plusieurs, puisqu'il y a celui qui va être à l'étage et qui va permettre à la personne détenue de sortir de sa cellule, sortir du bâtiment pour aller en bibliothèque. Il y a des surveillants aussi qui sont postés aux, ce qu'on appelle les sociaux, donc qui sont souvent les espaces où on a à la fois la bibliothèque, les salles d'activité, les salles de cours, qui mettent aussi beaucoup à jour les listes d'inscription, puisqu'on souvent on a une sorte de roulement pour avoir des créneaux par bâtiment, des créneaux horaires pour au moins garantir plusieurs heures par semaine à chaque détenu. Ça, encore une fois, c'est une ambition. Et donc il y a déjà ça. Après, évidemment, les sensibiliser, on sait que c'est une des clés. Parce que parfois il faut bien se rendre compte que cette question de faire accéder une personne détenue à la bibliothèque ou à une activité, ça représente du travail pour le surveillant qui en a déjà beaucoup. On est dans un contexte aussi pas évident avec des ressources humaines qui sont une vraie difficulté. Faut pas le cacher, et donc ça pâtit forcément sur l'accès aux activités et à la bibliothèque. La sensibilisation sur les bibliothèques, en fait, je dirais qu'on le fait sur peut-être d'autres partenariats, sur d'autres champs culturels, on essaye. Sur les bibliothèques, on peut le faire à la marge, peut-être aussi sur des projets type, par exemple, le Goncourt des détenus. On est sur un temps assez long, sur plusieurs mois. Et je sais qu'il y a des établissements où se sont aussi créés des groupes de personnel lecteurs, même s'ils ne sont pas directement les jurys, mais où on crée comme ça un peu des passerelles, des liens. Mais c'est vrai que c'est souvent des... Parce qu'il y a une envie au niveau local et qu'il y a quelqu'un qui a envie de lancer ça. Mais c'est vrai que c'est un vrai outil qu'il faut qu'on développe et pour lequel il faut aussi des moyens.
Merci beaucoup. On a parlé des acteurs internes, de certains d'entre eux, on ne peut pas rentrer non plus trop dans les détails, mais les acteurs extérieurs, aussi avec les bibliothèques territoriales, on y reviendra tout à l'heure, Hélène, mais je voulais redonner la parole à Charlotte, parce que, évidemment, que là aussi, le ministère de la Culture est disponible pour enrichir aussi les propositions de lecture dans les établissements. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se manifeste ?
Alors, on peut peut-être revenir sur ce que tu parlais de la question de la sensibilisation des personnels qui est indispensable. Dans les protocoles d'accord, dès 86, d'ailleurs, il me semble, dès le premier, en fait, les personnels sont inclus dans le protocole, à la fois sur la question de la sensibilisation de l'utilité de mettre en place des actions culturelles pour les personnes détenues, mais aussi la propre offre pour les personnels. Et en fait, cet aspect-là du protocole, il s'incarne dans la convention qu'on a avec l'École nationale d'administration pénitentiaire, qui a été renouvelée en 2023. Et on travaille très très fortement pour mettre en place une convention similaire avec l'École nationale de la protection judiciaire de la jeunesse. On y reviendra peut-être. Et dans le cadre de notre partenariat avec l'ENAP, il y a notamment le volet à la fois offre culturelle pour tous les personnels qui passent à l'ENAP, donc via notamment la mise en place d'actions culturelles, de résidences artistiques, et le volet formation-sensibilisation, où on essaye, dans la mesure du possible, de s'immiscer dans les interstices des programmes de formation de tous les personnels. Mais, et c'est là où on touche aussi un écueil, c'est qu'en fait, ces formations, elles sont très, très denses, notamment pour les formations, pour les personnels pénitentiaires, les surveillants. On était à 6 mois. Là, je crois qu'on est passé à 8 mois, mais ça reste quand même très, très court pour le volume de tout ce qu'ils ont à intégrer. Et leur mission première n'est pas la diffusion et la mise en place d'actions culturelles. Donc on est vraiment plus sur de la sensibilisation et de finalement comment est-ce qu'ils peuvent s'appuyer sur les actions culturelles pour essayer de créer des relations de travail et de vie différentes avec les personnes détenues.
Je crois qu'Arnaud Théval était intervenu à l'ENAP
Plusieurs années.
Oui, dont on parlait tout à l'heure, effectivement.
Il a beaucoup travaillé avec notamment les personnels de surveillance et avec aussi les CPI, il me semble.
Et du coup, alors, parce que c'est vrai que j'allais t'emmener sur les conseillers DRAC, mais effectivement...
On va y aller, ouais.
Donc, peux-tu nous parler des conseillers DRAC également ?
Donc, effectivement, donc, dans les directions régionales des affaires culturelles et les directions des affaires culturelles et les missions aux affaires culturelles dans les territoires ultramarins, vous avez des relais. Donc, dans toutes les régions, il y a à minima une personne. Dans les faits, il y en a beaucoup plus, mais en fait, on a souvent une personne dans notre jargon qu'on appelle le chef de file sur la mission culture justice, qui va vraiment être le référent de cette politique sur sa région et qui va communiquer avec ses collègues, parce que souvent en fait chacun va vous suivre un département. Donc ce sont ces personnes-là en fait qui travaillent avec les référents culturels en direction interrégionale des services pénitentiaires et en DIRPJJ, à l'élaboration d'un programme d'action culturelle et qui souvent en fait pilote les fameuses appels à projets culture justice qui permettent de financer et de mettre en place des actions. Dans les DRAC, on a aussi les conseillers livres et lectures, donc pareil, qui constituent un réseau très, enfin, très, 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 très utile. Et souvent, sur les questions du livre et de la lecture, on a souvent en fait les deux conseillers qui travaillent en lien pour notamment travailler les partenariats avec les structures de lecture publique.
Mais c'est vrai que c'est... Parce qu'après, il y a aussi des conventions tripartites, pluripartites en tout cas, entre la DRAC, l'administration pénitentiaire et la PJJ. Et il y a comme ça des objectifs clairs qui sont aussi fixés dans...
Oui. Oui, on a des... Alors là, aujourd'hui, on a... J'avais fait un état des lieux. En fait, on a des conventions qui sont tripartites dans toutes les régions. Il y a une région où c'est bipartite, sont les Hauts-de-France, où on a DRAC DISP et DRAC DIRPJJ, et une région où c'est quadripartite, donc c'est la région Normandie, où la région fait partie du partenariat. Et il y en a quelques-unes qui ne sont pas signées, mais en cours de signature dans les territoires ultramarins. Mais donc voilà, on a une couverture quasiment partout. Et en fait, ce sont ces conventions. Alors, elles sont très différentes. En fait, on a des situations qui sont assez différentes d'une région à une autre. Mais dans les faits, on a des conventions qui disent la même chose. C'est-à-dire, voilà, il faut... Ça comprend l'intervention de professionnels de la culture sur tous les champs disciplinaires, à la fois auprès des personnes incarcérées majeures et auprès des mineurs, à la fois dans les structures de milieu fermé, donc ce qu'on disait les quartiers mineurs, les établissements pénitentiaires pour mineurs, les centres éducatifs fermés et les structures du milieu ouvert, donc les unités d'accueil en jeu de jour et les foyers.
Et là, ces conventions prévoient donc des financements très clairs des crédits culture des interventions au milieu pénitentiaire
ou PJJ. Des crédits, donc à la fois des crédits donc déconcentrés du ministère de la Culture, donc des crédits DRAC, des crédits de l'administration pénitentiaire, donc en fait qui sont des crédits SPIP, et côté PJJ, des crédits de la Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse.
Et il y a cette organisation, mais qui va au-delà de ce dispositif. Alors, il y a évidemment un cheminement très précis, un calendrier très précis. Sauf que les conseillers DRAC sont aussi là pour échanger très régulièrement avec les professionnels de l'administration pénitentiaire, coordinateurs et autres, coordinateurs culturels et autres, et y compris pour organiser des rencontres aussi entre importeurs de projets artistiques et les représentants des services pénitentiaires.
En fait, souvent, la façon dont ça se passe, c'est qu'on ne va pas avoir un porteur, je ne sais pas, une compagnie ou une association qui arrive de nulle part et qui va venir candidater à l'appel à projet et proposer un projet culturel. En fait, souvent, la construction du projet, elle se fait vraiment en amont, effectivement, avec la DRAC et souvent le coordinateur culturel du SPIP et le porteur de projet. Et ensuite, voilà, une fois que le projet est, on s'est mis à peu près d'accord sur, ça va être tel type de projet qui va avoir lieu sur telle période, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il faut s'insérer dans un calendrier qui peut être contraint. Là, ensuite, souvent, il va postuler à l'appel à projet. Il peut y avoir des projets qui sont portés au niveau régional sur plusieurs établissements. C'est le cas notamment de Normandie Livre et Lecture et de en région Provence Alpes-Côte d'Azur aussi. Il y a des projets qui sont menés donc au niveau régional, donc le même projet qui se décline dans plusieurs établissements. Et il y a aussi des projets qui peuvent être soutenus au niveau national, quand ce sont voilà, des projets qui touchent plusieurs régions.
Donc je vais faire la transition est idéale avec Laurent pour voir un petit peu comment ça se manifeste donc en Normandie, puisque vous êtes partie prenante de ces conventions. Comment vous arrivez à... Est-ce que tu dirais que le premier rôle, c'est un rôle de coordination, ou ça serait vraiment trop restrictif de parler de ça? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes là comme un organisme facilitateur du développement de la lecture au sein de la région, ou finalement, ou non, c'est ça, bien sûr, mais pas que ça?
Donc on est effectivement donc, un organisme qui sert à créer des liens sur les territoires. Alors on parlait de la PJJ tout à l'heure, le lien entre la bibliothèque publique et le service PJJ. Et nous, avec notre connaissance, avec quel éducateur dans le service, avec quel service, parce qu'il y a des services qui sont plus ou moins disponibles ou en état de mener des projets. Donc on peut faire ce lien-là. Effectivement, on suit les conventions de partenariat au niveau régional. Donc c'est Emmanuel qui le fait. Donc c'est elle qui suit les moments de renouvellement, les moments où on peut rajouter un partenaire dans la convention. Donc on a des bibliothèques publiques, municipales, intercommunales. On a des bibliothèques départementales qui sont partenaires également. Souvent, le relais, c'est la bibliothèque publique va faire le suivi bibliothèque économique, la prison, et la bibliothèque départementale va proposer des animations, ou l'inverse. Donc on va essayer aussi, nous, d'ouvrir ces partenariats un maximum, peut-être d'y inclure la PJJ quand ce n'est pas le cas sur des territoires où il n'y a pas la prison, d'essayer d'ouvrir ça au milieu ouvert, de voir comment on peut intégrer les jeunes à ces partenariats-là. Et puis on a aussi un rôle d'impulsion, donc les projets régionaux qu'on a pu monter autour de thématiques liées à l'accessibilité, au facile à lire, donc sur les services PJJ, si on est toujours sur ce sujet.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'il y a cette compétence, c'est pas que de la coordination de projets action culturelle, en fait. C'est aussi travailler sur les collections. C'est donner aussi un certain nombre de clés aux intervenants, enfin aux membres de l'administration pénitentiaire, en tout cas aux agents, pour identifier aussi là où on les attend finalement, sans qu'ils en aient conscience même. Avoir une bibliothèque accessible, c'est pas négligeable. Comment ça se manifeste?
Comment nous on suit les acquisitions? Ouais. Alors comment Emmanuel Giraud suit les acquisitions? C'est vraiment en fonction des établissements et en fonction pour la PJJ de l'avancée du point lecture. Et grâce au suivi qu'on a au fil des années, on sait où ils en sont, on connaît les collections de chaque établissement pénitentiaire, on sait quelles acquisitions sont faites et comment nous on pourrait proposer de les compléter. On peut les guider vers, en fonction des publics présents dans les établissements pénitentiaires, en difficulté de lecture ou des publics en français langues étrangères, sur des acquisitions plus spécifiques, et leur donner des listes d'acquisitions sur lesquels ils se servent en fonction de leur budget, ou qui complètent avec des partenaires locaux. Quand il y a une bibliothèque publique locale présente, c'est aussi la bibliothèque publique qui est le partenaire des acquisitions, qui suit le fonctionnement du budget. Et là, nous, on disparaît un peu. Enfin, du coup, l'idée, c'est vraiment, dans Culture Justice, je pense, d'être autonome sur les territoires, dans les relations entre le dedans, le dehors pour la prison, de pouvoir réussir à intégrer la prison dans la collectivité au sens symbolique, et donc du coup de travailler avec le local. Donc nous, on est une agence régionale, on fait les passeurs, mais à un moment, c'est bien que ce soit vraiment autonome au niveau des territoires. Donc quand c'est le cas, nous, on n'intervient plus.
Et il y a quand même cet enjeu de la coordination de l'action culturelle. Comment ça fonctionne? Est-ce que vous proposez et chacun s'en saisit ou pas? Ou est-ce que c'est obligatoire, mine de rien, parce qu'il faut quand même essayer d'impulser certaines dynamiques?
Alors non, c'est jamais obligatoire. Et du coup, je pense que ce serait une mauvaise idée de rendre ça obligatoire. Je pense que ça ne marcherait pas du tout. Je pense qu'on se retrouverait tout seul avec notre projet et puis que personne ne nous aiderait à le faire. Et on pourrait... Voilà. Non, il faut que ce soit partagé avec l'administration pénitentiaire, avec le SPIP, avec les personnels de surveillance, ou pour la PJ avec les éducateurs. Il faut que ce soit partagé en amont. Il faut que ce soit aussi partagé sur le réseau des bibliothèques publiques. Un partage d'ambition, à la fois d'un résultat professionnel, de collection adaptée, et de part et d'autre, adaptée aux missions de la PJ et puis du SPIP, adaptée aussi à une bibliothèque ouverte, diversifiée. Je ne sais même plus où j'en suis, mais bon. Après, il ne faut pas que ce soit imposé. Non, surtout quoi. Il faut que ce soit discuté, il faut apprendre à connaître son partenaire sur les territoires, c'est important.
Mais donc, au-delà de ça, comment on arrive, enfin, comment vous arrivez à générer une activité, enfin, des actions qui fédèrent suffisamment d'établissements pour qu'on se dise, tiens, on a touché la corde juste, en quelque sorte. C'est, comment tu arrives à avoir cet effet d'entraînement ?
Du coup, ça part quand même aussi de l'envie des éducateurs et éducatrices pour la PJJ, des coordonnateurs, coordonnatrices pour les administrations pénitentiaires. Ça part du terrain. On échange avec elles et avec eux sur ce que nous, on peut leur apporter. Et puis, à partir de là, on va essayer de réunir un groupe un peu plus important en réunissant de nouveaux partenaires, en réunissant les bibliothèques, les festivals, les auteurs. Parce que l'intérêt des structures régionales pour le livre, c'est qu'on est vraiment au cœur de l'interprofession. Et donc, on peut, sur chaque terrain, connaître qui aller voir, ce que je disais tout à l'heure, qui est en bon état, qui l'est pas, qui est encore un bibliothécaire référent des publics motivé pour aller en détention, qui n'en a plus. Voilà. Et donc là, on sait monter le projet en orientant vers les bons partenaires sur les territoires, que ce soit pour la PJJ ou pour le SPIP. Donc on part plutôt de cette partie-là. Et puis notre envie à nous, voilà, l'envie de la chargée de mission Lecture Justice. Emmanuelle qui n'est pas là, elle a été coordinatrice pendant 8 ans, donc elle connaît les difficultés qu'on retrouve au niveau de la lecture en détention, elle connaît les difficultés d'illettrisme, et aussi elle connaît l'appétit de lecture des personnes détenues sur certains genres. Donc tout ça, ça se mélange, et en discutant, on arrive à trouver un point commun.
Hélène, tu disais déjà énormément de choses sur le rôle et l'implication des bibliothèques territoriales. Tu disais aussi tout à l'heure que voilà, y a la loi Robert, c'est, de toute façon, on n'y échappe pas. C'est comme ça et pas autrement. Pour autant, est-ce que c'est facile de travailler, de convaincre peut-être simplement les personnels d'une bibliothèque de l'importance ou de l'intérêt de travailler avec un établissement pénitentiaire ou un établissement de la PJJ?
Alors, je pense que c'est de plus en plus simple, mais que ça ne l'a pas été. En tout cas, souvent, on s'appuie sur la dernière étude du CREDOC en 2017. Donc, elle date un petit peu sur bibliothèques et publics empêchés, alors qui questionnait la question de l'accessibilité handicap, mais aussi public sous main de justice et en établissement de santé. C'est finalement deux champs où... je pense aux deux sites de la file, finalement, on a avancé depuis. Toujours est-il que dans cette enquête, les difficultés qui étaient pointées pour les bibliothécaires dans ce type de partenariat, c'était le fait que souvent ça reposait sur des volontés individuelles, on va dire l'appétence ou l'intérêt d'un bibliothécaire de faire ça, d'y aller et d'être d'accord pour y aller. Et que tout ça, ça ne structure pas un partenariat. Et que quand ça repose sur des volontés individuelles, et ben, quand la personne s'en va et change de poste, le partenariat s'en va avec elle. Et des fois, il s'en va avec elle vraiment. Et c'est une autre bibliothèque qui devient partenaire. Mais je pense que là-dessus, au fil des années, de par des sessions de formation, de par, je pense aussi, beaucoup de temps conjoint, alors à l'échelle des régions ou comme aujourd'hui, avec l'ensemble des interlocuteurs, on a quand même progressé. On a fait beaucoup de journées d'études, on a eu des publications. Maintenant, on a insisté plusieurs fois sur le fait et de faire apparaître ça dans le projet de service et de le faire apparaître éventuellement sur un organigramme ou dans une fiche de poste, au même titre que beaucoup d'autres partenariats. Parce que là, on parle des établissements pénitentiaires, mais finalement, on s'est rendu compte que ça questionnait l'appétence et le goût des bibliothécaires à aller vers les partenariats avec les groupes d'adultes, plus généralement. Ou là où, avec les groupes d'enfants, c'était très intuitif, avec les accueils de scolaires, de crèches, de petite enfance, tout de suite, les groupes adultes, c'était un petit peu plus difficile. Donc voilà, la commission, elle a travaillé pendant plusieurs années à insister sur le fait que tout ça devait être formalisé aussi de notre côté. Il y a des formalisations nécessaires et des conventions nécessaires de partenariat pour bien fixer les choses, mais nous, on devait aussi progresser sur nos manières d'envisager ce type de partenariat dans un projet de service, dans une organisation RH. Et aussi, je pense, alors là, plutôt avec une casquette de gestion d'équipe, de management et Je suis beaucoup sur les questions de mutualisation, mais c'est vrai. Il me semble que le fait que ça repose seulement sur une personne ou deux même, ça épuise les gens. Et c'est le cas pour plein d'autres choses. Mais c'est mieux si c'est partagé. Et c'est mieux si c'est partagé au sein d'une équipe, je pense.
Mais tu parlais de l'aspect RH des choses. C'est vrai que c'est pas évident d'arriver à dégager aussi des personnels plutôt qu'un d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des solutions de ce point de vue-là ?
C'est compliqué là. on sait qu'on va être dans une tendance, je pense aussi, à des petites réductions d'effectifs. C'est difficile de répondre de manière absolue à cette question-là. Moi, le conseil qu'on donne, c'est toujours d'étudier son territoire. Qu'est-ce qu'on a comme acteur potentiel sur le territoire et qu'est-ce qu'on a comme partenaire potentiel ? Plus on est nombreux et plus on peut se répartir les choses et plus dynamique c'est en plus. Parce que finalement, construire un partenariat à plusieurs, ça va prendre du temps avant de démarrer, mais finalement, ça va en faire gagner après. De la même manière que si on a une équipe suffisante, se répartir la charge au sein de l'équipe, ça aide aussi. Je parlais tout à l'heure de l'exemple à l'échelon d'une métropole. Laurent parlait aussi de l'importance des médiathèques départementales dans tout ça. Nous, par exemple, à notre échelon, on met pas du tout de sous dans ce partenariat. C'est du temps humain. Alors, ça représente des sous, mais on prête pas de collection de la médiathèque. Ça, c'est la médiathèque départementale qui le fait. Il n'y a pas de règle absolue parce qu'il faut s'arrêter sur son territoire, voir quel est l'établissement pénitentiaire qu'il y a, quels sont les autres partenaires potentiels autour, qui est d'accord pour faire quoi, qui a les moyens de faire quoi, et faire selon ses moyens. Alors, ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'insiste. Si on fait trop, finalement, ça va s'épuiser et c'est un petit peu voué à l'échec. Il vaut mieux faire à la juste mesure et sans trop de grandes ambitions, mais de manière pérenne, que s'emballer et vouloir trop faire. Donc, quand on démarre, je pense qu'il faut déjà démarrer mollo et doucement. Et encore une fois, pas tout seul, quoi. C'est quand même le meilleur moyen. Après, évidemment, dans un contexte où... et financièrement et en RH, en bibliothèque municipale, on doit assurer avant tout l'ouverture au public. Hein. Et on a aussi des questions de planning très bêtes, mais néanmoins indispensables. Peut-être qu'il faut commencer à se fixer des priorités, mais encore une fois, c'est là où on peut revenir au document cadre du projet de service dans lequel auront été identifiées les priorités. Est-ce que ça fait partie des priorités ou pas de l'établissement ? Et si oui, c'est pas ça qu'on réduit. Mmh. Après, ça peut être... dans le cas de ma médiathèque, dans une dynamique sur la métropole qui existe depuis longtemps, où on a aussi la bibliothèque de Lille qui intervient sur le deuxième centre pénitentiaire, et qu'on a un soutien de la médiathèque départementale, on a quatre collègues qui assurent une intervention, une matinée par mois. Et après, on a plusieurs autres collègues dans l'équipe qui vont intervenir selon des projets ponctuels. Lisser sur l'année, c'est pas grand-chose. Enfin, je pense aussi qu'il faut... C'est du temps qu'on donne. Alors, je prends toujours cet exemple-là, mais bon, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais pendant longtemps, ce temps-là, on l'a pas compté pour les accueils scolaires. Nous, les interventions en prison, elles nous prennent encore beaucoup moins de temps que les accueils de classe.
mais du coup, c'est vrai qu'il y a cette. Tu évoquais l'accompagnement de la désignation des auxiliaires bibliothécaires, le prêt de certaines collections. Ça peut être l'accueil de groupes de personnes détenues ou de jeunes sous main de justice aussi dans les lieux de lecture. Il y a vraiment une nuée ou la mutualisation de certaines actions culturelles avec des artistes qui peuvent aussi accepter de se produire dans l'établissement pénitentiaire ou auprès de la PJJ quand il vient ou ils viennent dans la bibliothèque municipale. C'est aussi effectivement indexé aux réalités et aux capacités de chaque partenaire.
Et alors juste parce que je me souviens qu'on s'est dit qu'on pouvait en parler et que j'allais l'oublier, il y a une autre manière aussi de collaborer, c'est l'accueil de condamnés à des travaux d'intérêt généraux qu'on peut faire dans les établissements publics. D'abord, je trouve que c'est vraiment le rôle des établissements publics d'offrir un lieu d'accueil pour l'exécution de ces peines dans leurs murs. Et en plus, ça participe à avoir au sein de l'équipe pendant quelque temps des gens qui ne sont jamais venus à la médiathèque, qui n'ont jamais mis un pied, à mieux les connaître. Et il se passe des choses intéressantes quand même. Et ça, c'est inclus, nous, dans notre volet, en tout cas dans l'attention portée au public sous main de justice. Mais c'est aussi une manière de tisser ce type de partenariat.
Effectivement, alors le temps passe et on va devoir passer à la partie qui va peut-être poser un peu plus de problèmes sur les moyens pour faire vivre le livre et la lecture. En fait, je voulais commencer par donner la parole à Elfie et Georgine parce que pour faire vivre le livre et la lecture, il faut déjà bénéficier des moyens alloués par l'administration pénitentiaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Georgine, effectivement, dans un premier temps, quel est le dispositif budgétaire mis en place au sein de l'administration ?
Alors, il y a, donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a vraiment l'idée d'une compétence partagée entre SPIP et établissement. Avec plutôt une logique qui revient à dire que le SPIP va prendre en charge tout ce qui va concerner les fonds et puis les actions en lien avec le livre et la lecture. Et de l'autre côté, l'établissement qui va plutôt, financer tout ce qui est de l'ordre du matériel, de l'informatique, la rémunération des auxiliaires bibliothèques. Voilà, c'est un peu comme ça que les choses se passent. En sachant que quand, par exemple, on a une association à qui est déléguée la gestion de la bibliothèque d'un établissement, là, pour le coup, c'est pareil, on va avoir une enveloppe normalement à peu près équilibrée entre SPIP et établissement qui va revenir, du coup, à l'association qui, elle, après, va, en fonction du projet, validé évidemment par tous, du coup, répartir ces enveloppes-là. Après, je laisserai peut-être Elfie parler de plus au niveau local et de ce que mettent en place SPIP établissement, mais pour parler aussi des échelons régionaux et nationaux. Nous, à l'échelon régional, on peut soutenir financièrement des actions, des partenaires qui vont avoir une dimension régionale, c'est-à-dire qui vont proposer des actions, des projets sur plusieurs établissements, plusieurs départements. Ça peut être une aide ponctuelle en fonction d'un partenaire, un projet. Ça peut être aussi un soutien plus pérenne, alors annuel, puisqu'on ne peut pas s'engager au-delà d'un an en termes financiers, mais voilà, qui permettent quand même de soutenir et de soulager aussi les budgets alloués par les SPIP et les établissements. Et puis à l'échelle nationale, on a un appel à projet annuel de notre administration centrale, donc politique pénitentiaire, rassemble une vingtaine de thématiques qui évoluent tous les ans. Certaines sont vraiment spécifiques, par exemple sur la question de la culture en détention, mais pas que. Il y a aussi par exemple des choses sur le maintien des liens familiaux, sur l'égalité homme-femme, et où là par exemple on peut tout à fait, ça peut être le coordinateur culturel qui va chercher un partenaire sur la question du livre et qui va proposer une action sur ces thématiques-là, et on peut se servir de l'outil livre, lecture là-dessus, et c'est très important même. Et puis après, par exemple, sur des opérations vraiment nationales, type, encore une fois, le concours des détenus, où là, l'administration pénitentiaire utilise vraiment des fonds pour, par exemple, la moitié de tous les livres de la sélection concours qui vont être transmis aux établissements qui participent. C'est CNL et puis administration pénitentiaire qui vont le prendre en charge.
Merci Georgine. Et effectivement, Elfie, comment tu arrives à construire ta programmation autour du livre et de la lecture? Comment tu arrives à avoir des budgets? Évidemment, il y a l'administration pénitentiaire, mais il y a aussi peut-être d'autres moyens de réunir ces fonds-là.
Oui, alors en fait, on va avoir donc les fonds en fait alloués par le SPIP qui se réduit d'année en année. On compte beaucoup sur justement, j'en parlais tout à l'heure, des associations qui vont faire des dons comme souvent les livres par exemple. Et après, on a tous les partenaires du coup externes, que ce soit des théâtres, des librairies, des auteurs en fait, qui vont venir en fait contribuer à la formation aussi de ces fonds et ces actions en fait qui vont maintenir la lecture en détention. Après, on va avoir aussi, alors je peux plus le faire aujourd'hui, mais quand on avait encore le partenariat justement avec la médiathèque, c'était de monter en fait une convention avec le CNL et d'avoir justement des fonds qui étaient alloués pour alimenter les fonds en fait de la bibliothèque et en même temps des actions autour du livre pour les personnes détenues.
Une petite précision, parce que c'est vrai que Georgine parlait des budgets du SPIP, mais ces budgets varient en fait de département en département et d'établissement en établissement. Il n'y a pas d'enveloppe bloquée qui serait la même finalement pour chaque établissement. Tu as connu deux établissements de fait entre Melun, oui, et Villepinte, et tu as bien vu qu'il n'y avait pas les mêmes moyens.
Non, pas du tout. Et alors là, c'est vrai qu'en plus, entre Melun, qui est un centre de détention, et le centre pénitentiaire de Seine-Saint-Denis, on n'est pas sur... on n'est pas déjà sur le même format, on n'est pas sur les mêmes tailles de bibliothèque. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus conséquent en fait de fournir en fait des ouvrages pour ces bibliothèques. C'est un fonctionnement en fait totalement différent.
Et dans ta programmation, j'imagine que toi tu as besoin d'un calendrier très en amont aussi pour justement baliser les différentes sources de financement. Est-ce que tu arrives justement à concilier ces différents enjeux? Est-ce que finalement les choses se font relativement sereinement? On va pas parler de 2025 parce qu'on ne sait pas encore, mais en tout cas à l'instant T peut-être, est-ce que tu arrives à trouver les financements nécessaires pour mettre en place ta programmation de manière...
Oui. C'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué, et puis notamment en fait au niveau du SPIP, justement pour avoir des financements. Donc on essaye en fait, enfin pour ma part, et je pense que c'est un peu le cas aussi pour mes collègues qui sont sur l'Île-de-France, de trouver des subventions des financements ou des cofinancements en fait pour nous aider justement à fournir cette bibliothèque ou en tout cas ces actions culturelles autour du livre et de la lecture. C'est difficile en fait d'établir en fait de trouver en fait des financements. C'est très difficile.
Et d'où l'intérêt d'avoir des structures aussi côté ministère de la Culture pour essayer d'alimenter aussi finalement ces programmations. Elfie et Georgine parlaient du CNL. Il y a d'autres, et du concours des détenus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Charlotte, et des autres aussi organismes qui existent?
Oui. Bon, il y a les appels à projets culture justice dont je parlais avant, qui où on peut tout à fait, un coordinateur culturel peut tout à fait choisir de déposer un projet livre et lecture, donc atelier d'écriture, qui pourrait inclure la rencontre avec un auteur. Ça rentre tout à fait dans ce cadre-là. Après, effectivement, c'est une fois par an avec des budgets qui sont contraints aussi, qui ne sont pas les mêmes d'une région à une autre. Et qui doit que le conseiller DRAC doit partager entre l'intégralité des établissements pénitentiaires et des structures PJ qui candidatent de son territoire. Il y a les commissions accessibilité du CNL, donc qui sont désormais au nombre de 3 par an. Je sais que les collègues du CNL seront avec nous cet après-midi, donc si vous avez des questions à leur poser, c'est le moment. Et effectivement, ça permet de soutenir des projets en fait avec un volet médiation. Qui peut inclure un volet acquisition de fonds en lien avec les thématiques de la médiation. Il y a un certain nombre d'heures minimum à respecter. Donc ça peut permettre d'enrichir la programmation culturelle livre et lecture. Vous avez aussi pareil, qui est devenu annuel, le programme Action culturelle et langue française, qui est porté par mes collègues de la DGLFLF, encore un super petit nom, donc c'est Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Et en fait, le principe, c'est de mettre en place un projet culturel pour encourager l'apprentissage du français, mais via une action culturelle. Donc, voilà, donc pareil. On a, et donc c'est un projet qui est porté en région c'est un appel à projet qui est porté en région par les DRAC. Et il y a aussi un volet national plus pour porter de l'outillage et de la formation. Nous, on mène une opération de distribution de chèques lire pendant les nuits de la lecture. Alors, ça reste modeste, mais en tout cas, ça peut permettre d'impulser une action livre et lecture auprès d'un établissement ou d'une structure, puisque la condition pour recevoir des chèques lire, c'est de monter un projet qui a lieu pendant les nuits de la lecture, donc en lien avec le livre et la lecture. Le concours des détenus également, ça permet aussi d'avoir des auteurs en fait, qui viennent dans les établissements. Vous le mentionniez, mais dans le cadre, quand on a la chance d'avoir un partenariat avec une bibliothèque locale, on peut aussi envisager du prêt d'auteur, en tout cas, que la programmation culturelle de la
J'aime
bibliothèque...
J'aime bien le concept du prêt d'auteur.
Elle se déplace dans l'établissement. Et puis aussi, il y a les financements privés. C'est vrai qu'en fait, de plus en plus, les actions qu'on voit, même Culture Justice, en fait, souvent, il y a des cofinancements. Et là, alors je les connais pas toutes, mais il y a la fondation du groupe La Poste et la fondation du Crédit Mutuel qui soutiennent notamment des actions autour du livre et de la lecture.
Oui, en fait, ça me fait penser à certains conseils régionaux aussi qui peuvent avoir des dispositifs de résidence d'artistes ou d'auteurs. Oui. Et puis, c'est vrai que les organismes privés, en tout cas, il en existe. Et la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture est l'une des principales structures aussi qui accompagne ce type de projet. Mais c'est vrai que ça, on touche aussi à l'une des limites du métier, des métiers des personnes qui sont concernées. C'est-à-dire qu'il faut... à la fois avoir le temps de remplir ses dossiers et surtout avoir une structure qui soit éligible. Typiquement, l'administration pénitentiaire ne peut pas déposer de dossier. Donc il faut aussi, dans ces relations partenariales fondamentales, c'est aussi savoir avec qui élaborer des projets pour que certains de ces partenaires puissent déposer aussi un dossier auprès d'un ministère ou d'acteurs privés. Parce que je sais qu'il y a certaines agences régionales pour la lecture qui, justement, ont parmi leurs missions ce rôle essentiel de pouvoir présenter, ne serait-ce qu'au CNL, mais peut-être à d'autres aussi, des dossiers de demande de financement. C'est le cas de PACA notamment. Est-ce que Laurent, tu peux nous en parler un petit peu également ?
Donc oui, effectivement, on a déposé des dossiers auprès du CNL dans le cadre de l'aide aux bibliothèques et aux associations. On a déposé des projets régionaux pour les majeurs et les mineurs. Donc on a coordonné le montage du projet et on l'a déposé et on a reçu avec bonheur les subventions. Et du coup, dans ce dossier-là, il faut aussi un cofinancement de 30%, me semble-t-il, ou de 20%, je ne sais plus si c'est...
Pour les établissements pénitentiaires,
30%.
Alors 30 minimum.
Ouais. Et du coup, dans ces cofinancements-là, on peut faire apparaître la protection judiciaire de la jeunesse, peuvent chacun donner un petit peu, les SPIP dans leur budget acquisition ou les budgets action culturelle. Alors nous, on a effectivement la chance d'avoir un soutien de la région Normandie. Donc on a pu la faire apparaître dans nos cofinancements, tout ça pour générer des financements supplémentaires. Et puis dans les autres financements possibles, il y a la SOFIA a pu apparaître sur une des actions qu'on a fait dans le cadre de Territoire du Livre, une résidence d'auteur qui a été... voilà. Donc il faut trouver ces 30% restants, mais après, c'est... voilà.
Mais ce qu'il y a aussi dans la logistique que ça suppose, c'est qu'il y a forcément le suivi de ces projets, l'évaluation, etc. Et c'est vrai que des postes comme celui d'Emmanuel que tu évoquais tout à l'heure, mais dans bien d'autres régions également, sont prépondérants parce que ce temps d'accompagnement et de suivi et d'évaluation, je pense aux coordinateurs culturels particulièrement ou aux bibliothécaires pénitentiaires aussi. Dans certains établissements, il y a des bibliothèques pénitentiaires, enfin des bibliothécaires pénitentiaires recrutés. Ces personnes n'ont pas nécessairement le temps pour s'y consacrer de manière suffisamment aboutie, en tout cas pour répondre aussi rigoureusement que possible aux attendus aussi de cet exercice. Donc c'est en ça aussi que ce rôle de coordination est vraiment essentiel.
En fait, là, ça se pose dans le cadre de projets régionaux. Nous, on a 10 établissements pénitentiaires, donc c'est des projets qui sont assez conséquents. Après, sur le CNL, il y a des demandes qui sont faites à l'échelle d'un établissement, qui peuvent être assez petites. Enfin, on n'est pas obligé de partir sur un truc énorme, du coup, avec, je crois, sur la dernière appel à projet, une prépondérance des animations. Donc c'est aussi intéressant, voilà. Avec, bien sûr, des acquisitions, mais aussi la possibilité de développer des animations. Donc oui, mais c'est quand même un travail... Un travail conséquent si c'est fait à l'échelle d'un département ou d'une région. Ouais.
Et alors, Hélène, je ne vais pas demander quels sont les financements disponibles. Du côté des bibliothèques territoriales, ça serait pas forcément... voilà.
Énorme.
Énorme. Mirifique. En revanche, les moyens, c'est aussi accompagner les professionnels. Charlotte en parlait auprès des personnels pénitentiaires ou, si possible, avec les personnels de la PJJ. Mais il y a des outils quand même. Il y a une réflexion intellectuelle depuis des décennies qui peut aussi répondre à toutes ces questions en termes de bonnes pratiques.
Oui, tout à fait. Alors, le médiathème de la commission... auquel Laurent avait aussi contribué. Non, un petit peu après. Donc, c'est dans la collection des ouvrages professionnels de l'ABF. Hein. Donc, il est un petit peu vieux aussi, mais il reste, je l'ai reparcouru avant cette journée, ça reste valable, où on explique... c'est vraiment une forme de guide, hein, de savoir appréhender comment ça se passe quand on rentre dans un établissement pénitentiaire de manière très pratique. Et aussi toutes les questions qu'on a survolées aujourd'hui et la question des financements, la question de l'organisation RH, la question de la sociologie de la lecture en prison sur laquelle il est aussi intéressant de se pencher. Ce que je dis à chaque intervention, c'est aussi à quel point ces partenariats-là nous nourrissent aussi professionnellement et nous amènent à réfléchir sur notre public en général. Enfin voilà, moi je pense vraiment que chaque partenariat qu'on fait en tant que bibliothèque territoriale, il est enrichissant. C'est pas, on le fait. Il faut pas le faire seulement parce que il faut le faire. Il faut aussi comprendre à quel point ça nous apporte et ça nous aide aussi à tout le temps remettre en question des pratiques, des réflexions sur la politique d'acquisition. On a des retours en prison sur les collections qu'on a rarement en bibliothèque publique et ça c'est avec le tout public c'est quand même hyper intéressant aussi. Sur les rencontres d'auteurs, il se passe à peu près la même chose. Hein. La rencontre d'auteurs dont je parlais. L'auteur accueilli nous a dit « Mais les détenus voient dans mes livres des choses qu'on ne me remonte jamais en rencontre en librairie ou en médiathèque. Tout ça, ça s'enrichit vertueusement. Donc, au niveau des outils, le médiathème, le blog de la commission accessibilité, il y a une adresse mail sur laquelle on reste toujours réactif et on peut être sollicité par des collègues sur certaines régions ou en tout cas au niveau des membres de la commission, on a la facilité d'avoir assez de monde sur l'ensemble du territoire et avec différentes casquettes pour savoir vous orienter vers les bons interlocuteurs selon l'endroit où vous travaillez. Et puis des échanges téléphoniques qui parfois suffisent à désamorcer les quelques questions, quelques craintes.
Voilà. Merci beaucoup. Il y a évidemment le site Lecture Justice qui aussi donne énormément d'informations. Mais c'est vrai qu'il y a toute la dimension formation aussi des bibliothécaires qui rentrent en ligne de compte avec l'ABF. Je vais vous passer la parole pour avoir peut-être quelques questions. Je voulais juste conclure juste avant en disant que, en fait, c'est des questions qui sont a priori... on ne sait jamais trop où placer le curseur parce qu'on a envie de donner envie. En revanche, évidemment que les choses sont très compliquées à différents titres pour les professionnels de la lecture publique comme pour les professionnels des services pénitentiaires. Donc, ce n'est pas évident. En revanche, c'est toujours aussi important et aussi crucial de dire que le livre est vraiment un enjeu fondamental dans une société et a fortiori dans des lieux de détention. Et donc, c'était intéressant quand on préparait cette table ronde avec Emmanuel, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Elle a dit quelque chose qui est une évidence pure et pourtant que j'avais jamais intégré moi, qui était que finalement, la bibliothèque pénitentiaire, c'est une bibliothèque sur le réseau de lecture publique. Et en fait, y a pas, une fois qu'on a dit ça, on s'ouvre beaucoup de perspectives et peut-être qu'il y a certains blocages psychologiques qui tombent. Il n'y a pas de raison, de la même manière que Valérie Dassonville dirait que une scène de spectacle vivant dans un établissement pénitentiaire, ça devrait faire partie du circuit de scènes locales de spectacle vivant. Bah, la bibliothèque, c'est pareil, en fait. Et du coup, merci à vous cinq. Je vous remercie avant les questions, parce que comme ça, je tiens le fil conducteur de mon texte. Ça m'aide. Donc, merci beaucoup. Mais parce que, en fait, il y aurait aussi beaucoup de gens à inviter, à parler de tout ça. Et c'est l'un des objectifs de cet après-midi. Les éditeurs, les libraires, des associations de lecteurs, de lectrices dans le monde de la littérature jeunesse ou pas. Et donc, c'est vraiment un... Enfin, Delphine Henry disait un écosystème, oui, c'est-à-dire que c'est un environnement vivant, profondément vivant, et donc pour lequel on a besoin de tout le monde, finalement. Voilà.
Merci beaucoup à toutes et tous pour tous ces échanges, et merci Julien pour cette animation parfaite. On va pas avoir beaucoup de temps pour des questions, peut-être juste une ou deux, mais vous retrouverez tous nos intervenants et intervenantes presque cet après-midi sur le forum pour échanger davantage, mais peut-être qu'on peut tout de même prendre une ou deux questions si vous en avez.
Donc bonjour, je vous remercie. C'est un peu moins une question qu'un retour d'expérience, du coup, parce que je fais partie de la médiathèque de Villepinte, du coup, qui était en partenariat précédemment. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, à l'époque où le partenariat vivait ses beaux jours, l'équipe de Villepinte était constituée d'une vingtaine de personnes, dont trois personnes dédiées à la médiathèque. Et en 2022, suite aux différents départs et aux non-remplacements, on était 9. Ce qui a du coup été une grande déception que de devoir terminer ce partenariat, mais ça correspondait notamment à une consigne hiérarchique, notamment pour préserver les équipes et permettre de maintenir l'ouverture de la médiathèque de la ville avant malheureusement la médiathèque de la maison d'arrêt. Mais c'est vrai que les collègues qui travaillaient là-bas à l'époque étaient très déçus de devoir mettre fin à ce contact avec les publics.
Merci beaucoup. C'est des chiffres aussi assez évocateurs. Parce qu'on parle des sous-effectifs pénitentiaires, mais oui, enfin, je veux dire, les équipements culturels publics font face à des difficultés aussi.
Bonjour. Moi, j'interviens sur le centre pénitentiaire, enfin la maison d'arrêt de Grenoble-Vars, et je voulais savoir si au niveau de l'ABF, il y avait eu des études sur un budget par détenu. Un ratio, en fait. Est-ce qu'on peut se baser sur quelque chose qui existe comme ça, au niveau des budgets d'acquisition ?
Non, on t'a pas... Alors, on manque de visibilité d'abord, parce que, comme on l'a abordé, les situations, elles sont... Et les budgets sont tellement différents selon les... Par région, et après par établissement, selon qu'on ait des agences régionales qui arrivent à porter des dossiers ou pas. Enfin, c'est extrêmement difficile. Donc on n'a pas de... Enfin, c'est type recommandation ministère de la Culture, c'est ça, de budget, comme un budget par habitant et un budget par détenu. Mais il y en a dans les fiches. Hein. Maintenant, entre la recommandation et la réalité, on a du mal à mesurer la réalité des choses, pour le coup. Et on sait pas, on n'a pas fait de recommandation. À vrai dire, le travail qui a été mené depuis 10 ans au niveau de la commission, il était tellement plutôt... dans la formation et des bibliothécaires et dans faire le lien entre les différents champs des acteurs qu'on est plutôt intervenu sur de la formation, de la sensibilisation que sur des choses très pratiques comme celle-là.
Et peut-être effectivement pour compléter, la fiche technique de la circulaire de 2012 donne des préconisations, pas en termes de budget, mais plus en termes de « il faut tant d'ouvrages par détenu ». Et c'est aussi dans cette fiche qui est précisé, a priori on est sur un accès à la bibliothèque de 30 minutes par semaine par détenu. Ça encore une fois, ce sont les recommandations.
Je sais plus ce que je... Pour rejoindre... En fait, par exemple...
Il fonctionne. Le CNL sur les dossiers qui sont déposés par les bibliothèques territoriales vont vérifier qu'il y a bien le budget de 2 euros par habitant. alors que sur les dossiers déposés pour les établissements pénitentiaires, ce critère-là n'entre pas. Et ce qui va entrer, c'est de vérifier que la bibliothèque est bien en accès libre, qu'il y a un minimum d'heures d'ouverture, qu'il y a un partenariat avec des professionnels, mais on n'est pas sur des critères de budget par détenu.
En revanche,
peut-être on peut, c'est un élément d'actualité qui peut peut-être être intéressant. La DAP a actuellement lancé une nouvelle enquête nationale sur les bibliothèques, une enquête qui est très très complète, qu'elle lançait jusqu'ici. Je crois que la dernière datait de 2021. Donc voilà, là elle est en cours et je pense qu'on aura notamment ce type d'informations à l'issue des résultats qui seront sans doute publiés en 2025.
Et je voulais dire aussi que ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure l'action des professionnels de la lecture publique peut avoir une incidence sur les budgets d'acquisition. Il y a cette fiche technique de la circulaire, mais finalement, ça n'est pas contraignant. En revanche, ce que disait Emmanuel quand on préparait la table ronde, c'est qu'au bout de 10 ans, ils avaient enfin réussi à obtenir de la part du service de la PJJ dans le Calvados de consacrer une ligne budgétaire aux acquisitions chaque année. Voilà. Donc, ça ne répond pas à votre question. En revanche, on voit bien qu'il y a parfois aussi des pratiques professionnelles qui ne sont pas totalement abouties, mais qui permettent de se mettre en place parce qu'il y a un tissu partenarial qui est fortement incitateur, en fait. Et ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a des gens qui se disent « Ah oui, en fait, on a besoin d'argent pour acheter des livres, parce que sinon, ce que vous disiez aussi en début de table ronde, une collection qui ne vit pas, ça ne peut pas être intéressant. »
Merci beaucoup. Je vous propose qu'on arrête les échanges ici, puisqu'on est parfaitement dans le timing. quelques petites informations. Merci encore pour ces échanges. Quelques petites informations pratiques avant de se quitter. Cet après-midi, on se retrouve à 14h pour le forum qui sera au niveau 2. Par contre, l'entrée, vous avez dû le voir, mais je vous le redis, l'entrée ne se fera pas au même endroit, elle se fera de l'autre côté du bâtiment, côté rue Beaubourg, à l'ancienne entrée de la BPI, en réalité. J'invite les intervenants qui déjeunent ensemble à juste se regrouper devant la scène pour aller déjeuner. Et nous nous excusons par avance pour cet après-midi, parce qu'il risque d'y avoir quelques petites coupures de lumière à certains moments, parce qu'il y a des tests qui sont faits par l'artiste Wolfgang Tillmans dans la BPI en préparation d'une exposition à venir. Donc on s'excuse par avance pour les éventuels désagréments. Merci à tous et bon appétit.